Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Monde à l'école. Un texte de Louis Cornelier, paru le 18 avril 2026 dans Le Devoir. Pour expliquer le monde en proie au chaos, Jonathan, le prof, s'avère un excellent vulgarisateur. J'enseigne le français, la littérature et la communication collégiale depuis 35 ans avec enthousiasme. Si j'avais eu plus qu'une vie, j'aurais aussi aimé enseigner les sciences humaines. Il y a, en effet, un réel plaisir à expliquer des choses essentielles et complexes à de jeunes esprits curieux qui entrent dans la vie adulte. Au secondaire, je me serais vu en enseignant des cours culture et citoyenneté québécoise et monde contemporain. Faire découvrir la démocratie québécoise et les grands enjeux du monde actuel aux élèves pour leur donner le goût de devenir des citoyens éclairés et engagés m'apparaît comme une tâche exaltante. Dans toutes les matières, enseigner, c'est plus que communiquer des connaissances. C'est transmettre un élan, un désir, une volonté de s'approprier vraiment des savoirs pour les activer et les déployer dans la vie vécue hors de l'Atlas. Pour arriver à transmettre cet élan, le passeur ne peut se contenter d'exposer platement le contenu du programme. Il doit l'incarner, être l'exemple concret de ce que la détention de ce savoir change à la vie. Sans un tel modèle, les jeunes se diront « à quoi bon » et retourneront à leurs écrans de pacotille. Un enseignant qui ne lit pas de livres ne convaincra pas ses élèves d'en lire. Il n'y a pas de modèle unique d'enseignant incarnant le savoir stimulant. J'ai eu dans ma vie des enseignants posés, sérieux, qui donnaient le goût de leur matière en étant la preuve vivante que savoir ce qu'ils savaient enrichissait l'expérience humaine. J'en ai d'autres qui arrivaient au même résultat en étant drôles, intenses et originaux. Il n'y a pas de règle, sinon celle d'un engagement existentiel qui dépasse le cadre scolaire. On ne va pas à l'école pour avoir de bonnes notes, mais pour apprendre que savoir plus aide à mieux penser et à mieux vivre. Jonathan Saint-Pierre, mieux connu sous le surnom de Jonathan le prof, est un enseignant du genre « cool ». Avec sa barbe à la ZZ Top, ses tatouages, ses perçages et ses casquettes, il ressemble plus à un oncle amateur de heavy metal qu'au stéréotype de l'enseignant. Pour ajouter à sa « coolitude », Saint-Pierre se réclame de « l'activisme pédagogique » et présente depuis des années des capsules éducatives sur les réseaux sociaux. On peut trouver que cela fait un peu gadget, mais il faut reconnaître que le gars est bon. J'ai regardé quelques-unes de ses capsules sur YouTube. Ce n'est pas mon truc, mais c'est bien fait. Avec simplicité et sur un ton sympathique, l'enseignant aborde et explique clairement des réalités historiques et géopolitiques complexes. Sa matière, celle du cours « Monde contemporain de 5e secondaire », c'est-à-dire, selon le site Alloprof, les questions liées à l'environnement, à la population, à la richesse, au pouvoir et au conflit. Avec « Tout va bien », l'Homme, 2026, 208 pages, Jonathan le prof transpose dans un essai sa mission éducative et c'est une réussite. Le ton convivial des vidéos est toujours au rendez-vous, mais le contenu, soumis aux contraintes de la communication écrite, gagne en richesse et en profondeur. L'enseignant ne s'adresse pas à des savants et il n'apprendra pas grand-chose aux connaisseurs de la politique contemporaine. Son travail de vulgarisation, toutefois, est solide. Il offre aux jeunes et au grand public en général un très éclairant portrait du monde contemporain en proie au chaos. On rencontre, dans ce livre, Poutine, Xi, Trump et Musk, les quatre chevaliers de la géopocalypse qui ébranlent l'équilibre du monde. On fait le tour des conflits les plus menaçants de l'heure et on a droit à une présentation nuancée du conflit israélo-palestinien. On explore les notions de gauche et de droite, les ravages de la désinformation et les dangers de l'intelligence artificielle. On se scandalise, enfin, de l'indécence des ultra-riches et ont compatit au sort des réfugiés. Sur le plan idéologique, Saint-Pierre navigue au centre-gauche, mais il conserve toujours un souci d'objectivité. Comme enseignant, il est bien conscient que son rôle consiste aussi à donner le goût du monde à ses lecteurs et à ne pas les désespérer, raison pour laquelle il les invite à se mettre en action pour combattre le cynisme ambiant. Sa force principale tient à son style amical teinté d'humour. Pour faire aimer l'histoire, note-t-il justement, il faut la raconter, faire appel aux sentiments, aux souvenirs et à la culture première, la rendre signifiante, concrète et tangible. Il lui arrive de m'agacer un peu, comme quand il dit qu'il faut encourager le local tout en comparant son récit à une série Netflix ou quand il refuse de franciser le terme « podcast » en balado. Mais il est si vivant que je ne lui en tiens pas rigueur. J'aurais aimé avoir un prof comme lui et lire un tel livre au secondaire. C'était « Le monde à l'école », un texte de Louis Cornelier paru le 18 avril 2026 dans Le Devoir.
Une momie parfaitement conservée. Un texte paru le 2 décembre 2024 dans le magazine Québec Science. La Donzella, une jeune fille inca morte et momifiée il y a plus de 500 ans, offre aux chercheurs une opportunité unique d'explorer l'histoire des Incas et de leurs rituels de sacrifice humain. Le Musée d'archéologie de haute montagne, MAAM, situé à Salta, en Argentine, en expose 3, un garçonnet et deux fillettes, dont la plus célèbre est connue sous le nom de la Donzella, la jeune fille. Les corps momifiés ont été découverts en 1999 par un groupe d'archéologues au sommet du volcan Chuchayaco, situé à la frontière entre l'Argentine et le Chili, à plus de 6000 mètres d'altitude. Leurs corps ont été remarquablement préservés grâce aux conditions extrêmes qui règnent au sommet du volcan. Le froid intense, l'oxygène raréfié et la faible humidité ont permis leur conservation exceptionnelle. Que faisaient ces enfants au sommet de cette montagne? Ils ont probablement été tués dans le cadre d'un rituel appelé Capalcocha, une pratique inca de sacrifice humain. Les victimes étaient choisies plusieurs mois avant le sacrifice et participaient à une longue procession jusqu'à la capitale de l'Empire, Cusco, avant d'être conduites sur la montagne pour être offertes aux dieux incas. Pour mieux comprendre ces rituels, une équipe de scientifiques a étudié les trois corps, dont celui de la Donzella, particulièrement bien conservé. La Donzella semble avoir eu un rôle plus important que les deux autres enfants, car elle était vêtue d'une tunique de cérémonie et portait une coiffe au moment de sa découverte. Les longues tresses de la jeune fille contiennent un certain nombre de marqueurs permettant de retracer son alimentation. Comme les cheveux poussent d'environ 1 cm par mois et demeurent ensuite inchangés, on peut suivre l'évolution des habitudes alimentaires. Ainsi, les chercheurs ont découvert la preuve de la consommation de substances psychotropes, comme la coca, feuilles, et l'alcool, sous forme de bière fermentée à base de maïs. Ces deux substances n'étaient pas utilisées au quotidien, mais plutôt lors de cérémonies et rituels. Or, la consommation de feuilles de coca aurait commencé durant la dernière année avant le sacrifice et aurait considérablement augmenté durant les 6 derniers mois de leur vie, avec un pic durant les dernières semaines. Comme le voyage pouvait être extrêmement long et ardu, des feuilles de coca lui étaient possiblement proposées aussi pour l'aider à combattre le mal d'altitude. En examinant les corps, aucune trace de coups ou de violence n'a été découverte. Ils sont probablement morts de froid tous les trois. L'alcool et la coca pouvaient être ainsi utilisés pour leurs effets désinhibants et anesthésiants. Ces recherches ont permis de corroborer et d'enrichir les récits historiques sur les pratiques sacrificielles des Incas. Elles ont notamment confirmé l'utilisation de substances psychotropes dans les rituels. Ces momies, figées dans le temps, continuent de nous livrer leurs secrets et nous permettent de mieux comprendre cette fascinante civilisation inca. C'était « Une momie parfaitement conservée », un texte paru le 2 décembre 2024 dans le magazine Québec Science.
Pourquoi les parents Gen Z abandonnent la parentalité bienveillante? Un texte de Ariane Ménard-Turcotte, paru le 7 avril 2026. tout le monde aime se moquer de la parentalité bienveillante. En fait, ce sont surtout les boomers et les gens X qui rient des milléniaux et de leur obsession pour les émotions. Dans la caricature classique, c'est un parent accroupi dans l'allée des céréales qui supplie son enfant d'arrêter de hurler tout en validant ses émotions. Je comprends que tu sois frustré de ne pas avoir de Lucky Charms. Ton sentiment est légitime, mais idéalement, mon amour, on ne crie pas dans un magasin, s'il te plaît. En réponse à ça, il y a les gens Z qui sont devenus parents à leur tour, déjà, Seigneur, et qui ont une approche bien à eux qui tient en quatre lettres. Le FAFO, soit « fuck around and find out », qu'on pourrait traduire approximativement par « essaye pour voir ». C'est quoi le FAFO? Le principe du FAFO est simple. Les parents ont bien beau avertir, expliquer, prévenir. Si l'enfant décide quand même de franchir la limite, qu'il en assume les conséquences. Tu veux sortir sans manteau? Parfait, endure le froid. Tu veux pas manger ce qu'il y a pour souper? OK, tu vas te coucher l'estomac vide. En gros, c'est une philosophie éducative qui privilégie les conséquences plutôt que les longues discussions émotionnelles caractéristiques de la parentalité milléniale. En ligne, certains parents parlent même de surpasser la sauvagerie de leurs enfants. Ça, c'est une autre paire de manches parce que ça va jusqu'à « quand mon enfant me mord, je le mords en retour ». Faites pas ça, OK? Comme c'est souvent le cas avec les tendances parentales, tout a commencé sur TikTok. C'est une mère vivant en Floride qui a publié une vidéo devenue virale dans laquelle elle explique avoir lancé l'iPad de sa fille par la fenêtre parce qu'elle ne l'écoutait pas. La vidéo a été vue plus de 5 millions de fois et les commentaires sont étonnamment enthousiastes. Les gens sont bien contents que les enfants doivent enfin faire face à des conséquences. En juillet 2025, le Wall Street Journal confirmait l'arrivée d'une nouvelle ère de parentalité avec un article intitulé « Adieu la parentalité bienveillante, bienvenue le fuck around and find out ». La revanche de la parentalité douce. Pour comprendre pourquoi cette tendance trouve autant d'écho, il faut revenir une dizaine d'années en arrière. La parentalité bienveillante se voulait une réaction à l'éducation plus autoritaire du début des années 2000. On voulait rompre avec les punitions humiliantes, les « va réfléchir dans ta chambre » et les « je te l'avais dit ». À la place, on a commencé à parler d'émotions, de validation, d'accompagnement. Le problème, c'est que cette approche s'est parfois transformée en mission impossible. Des parents racontent s'être retrouvés à devoir expliquer chacune de leurs décisions, à surveiller chaque interaction, à nommer toutes les émotions de leur enfant avec un calme olympien. Une tâche épuisante, surtout quand votre enfant de 3 ans est allongé sur le plancher d'un supermarché parce qu'il voulait des céréales en forme de licorne. Certains critiques vont même plus loin et accusent cette approche d'avoir contribué à produire une génération de jeunes adultes anxieux ou incapables de tolérer la frustration. La parentalité bienveillante est-elle réellement à blâmer pour ça? Probablement pas. Mais dans cette grande machine à tout simplifier qu'est Internet, un coupable est toujours désigné. En fait, Julie Romanowski, coach et consultante en parentalité basée à Vancouver, résume bien le tout dans un article de la CBC. La pression d'être un parent bienveillant prédispose les parents à l'échec, car ils ne savent même pas comment y parvenir. C'est ce qui explique la tendance FAFO en tant que juste retour du balancier. En appliquant des conséquences logiques ou pas, le parent a l'impression d'avoir de l'emprise, d'agir concrètement pour modifier le comportement de son enfant, même si ce n'est pas toujours la chose à faire. Les parents, Gen Z, veulent autre chose. Un sondage mené auprès de 2000 parents d'enfants de moins de 6 ans montre une différence intéressante entre les générations. Si les milléniaux ont tendance à mettre l'accent sur le soutien émotionnel et mental, les parents Gen Z, eux, disent vouloir surtout préparer leurs enfants à faire face au monde réel. Selon la docteure Emma Svanberg, psychologue et auteure de Parenting for Humans, la méthode FAFO séduit parce qu'elle permet immédiatement et explicitement aux parents de se détendre et d'appliquer les conséquences naturelles de leurs actes plutôt que de s'engager dans des négociations interminables avec un enfant récalcitrant et non coopératif. L'émergence de la tendance FAFO, explique-t-elle, coïncide avec une certaine nostalgie pour l'éducation parentale des années 1990 et nous avons tendance à reproduire plus facilement des schémas qui nous sont familiers. Des pour et des contre. Les partisans du FAFO disent que cette méthode enseigne aux enfants l'autonomie et la responsabilité. Ces critiques disent plutôt que cette approche repose trop sur la peur et l'humiliation. La vérité se situe probablement quelque part au milieu. La prochaine tendance arrive déjà. Comme pour la parentalité bienveillante, le FAFO finira probablement par être remplacé par autre chose. En fouillant un peu sur TikTok, on voit déjà apparaître une nouvelle étiquette. La parentalité FAFO bienveillante. Le principe, les enfants ne sont pas aux commandes, mais les conséquences existent sans humiliation et sans le plaisir un peu douteux de dire « Je t'avais averti ». Comme quoi, la vérité se situe pas mal toujours au milieu. C'était « Pourquoi les parents, Gen Z, abandonnent la parentalité bienveillante », un texte de Ariane Ménard-Turcotte, paru le 7 avril 2026.
Économie. La consommation mondiale de pétrole pourrait baisser en 2026, une première depuis la COVID. La faute à la guerre au Moyen-Orient, qui perturbe à la fois l'acheminement avec le détroit d'Ormuz et la production. Un texte de Nathalie Alonso paru le 14 avril 2026 dans Le Devoir. Pour la première fois depuis 2020, année marquée par la pandémie de COVID-19, la consommation de pétrole devrait reculer en 2026 sous l'effet des pénuries et des hausses de prix liées à la guerre au Moyen-Orient, à l'origine du choc d'offres pétrolières le plus grave de l'histoire, estime mardi l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. La dernière baisse annuelle remonte à 2020, lorsque les confinements et fermetures de frontières pour limiter la propagation de la COVID avaient fait chuter la demande de 8,97 millions de barils par jour, MBJ, avant un retour à une croissance régulière depuis, indique un porte-parole de l'AIE. 6 ans plus tard, les causes sont différentes. Mais le monde s'achemine vers une nouvelle baisse de sa consommation annuelle qui devrait s'établir à 104,26 millions de barils par jour contre 104,34 millions de barils par jour en 2025, selon le rapport mensuel de l'AIE sur les marchés pétroliers. La demande mondiale de pétrole devrait reculer en moyenne de 800 000 barils par jour en 2026 contre une croissance de 730 000 barils par jour attendue dans le rapport du mois dernier, a précisé l'AIE, dont les prévisions évoluent chaque mois en fonction de la conjoncture. Le deuxième trimestre devrait même connaître une baisse de 1,5 million de barils par jour, qui serait la plus forte depuis que la COVID-19 a fait chuter la consommation de carburant, ajoute l'Agence de l'énergie de l'OCDE, basée à Paris. Initialement, les réductions les plus marquées de la consommation de pétrole ont été observées au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, notamment pour le carburant d'aviation et le gaz de pétrole liquéfié, GPL, très utilisé comme combustible de cuisson, explique l'AIE. Cependant, la destruction de la demande devrait s'étendre à mesure que la pénurie et la hausse des prix persistent, prévient l'agence. La situation actuelle est le choc d'offres pétrolières le plus grave de l'histoire, a aussi réitéré l'AIE. La production mondiale de pétrole a en effet été amputée de 10,1 millions de barils par jour, s'établissant à 97,05 millions de barils par jour en mars, conséquence des attaques persistantes contre les infrastructures énergétiques du Golfe et des perturbations des approvisionnements de pétrole dans le détroit d'Ormuz. La guerre dope la Russie. Là où les stocks de pétrole n'ont pas su combler le déficit, la demande a été affectée, souligne l'AIE, citant les producteurs pétrochimiques asiatiques qui ont réduit la voilure faute de matières premières, les annulations de vols de compagnies aériennes et le nombre croissant de pays qui ont mis en place des mesures de sobriété. Le mois d'avril devrait être encore pire que mars pour le secteur de l'énergie, quand bien même la guerre au Moyen-Orient trouverait rapidement une conclusion, a alerté lundi le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol. La reprise des flux transitant par le détroit d'Ormuz demeure la variable la plus importante pour atténuer les tensions sur les approvisionnements énergétiques, les prix et l'économie mondiale, a réitéré l'AIE dans son rapport. Alors que les perspectives d'un règlement négocié durable du conflit restent incertaines, l'AIE présente une prévision de base tablant sur une reprise partielle des livraisons de pétrole et de gaz du Moyen-Orient d'ici la mi-année, sans retour au niveau d'avant-conflit. Mais reconnaissant qu'elle pourrait s'avérer trop optimiste, l'agence y ajoute un scénario alternatif envisageant un conflit prolongé qui exposerait les marchés de l'énergie et les économies à des perturbations majeures dans les mois à venir. Dans ce cas, des efforts supplémentaires et délibérés de réduction de la demande seront rapidement nécessaires pour équilibrer le marché et éviter des dégâts économiques encore plus graves, prévient l'AIE. Seule certitude pour l'heure, la Russie a tiré son épingle du jeu dans le sillage du conflit en voyant ses recettes d'exportation doubler en février et mars. Ils sont passés de 9,7 milliards de dollars US à 19 milliards de dollars US sous l'effet de l'envolée des prix et de livraisons en hausse, notamment à destination de l'Inde, grâce à la levée des sanctions américaines sur certaines cargaisons. C'était « La consommation mondiale de pétrole pourrait baisser en 2026, une première depuis la Covid ». La faute à la guerre au Moyen-Orient qui perturbe à la fois l'acheminement avec le détroit d'Ormuz et la production. Un texte de Nathalie Alonso, paru le 14 avril 2026 dans Le Devoir.
Des millions de données de la LNH pour intéresser les jeunes aux maths. Un texte de Stéphane Roland de la presse canadienne paru le 15 avril 2026 dans Le Devoir. Miser sur la fièvre du hockey pour motiver les jeunes à apprendre les mathématiques. C'est le pari d'un nouveau jeu éducatif développé par un laboratoire de HEC Montréal en collaboration avec la Ligue nationale de hockey, LNH. Laboratoire Herpsin a créé un jeu accessible gratuitement aux professionnels de l'éducation en collaboration avec la LNH, le géant technologique SAP, ainsi que deux professeurs de l'UQAM et de l'Université de Sherbrooke. À partir d'une base de près de 1,5 million de données de la LNH, les chercheurs ont créé des problèmes mathématiques variés pour différentes étapes du parcours scolaire, du secondaire à l'université. Les mathématiques ne sont jamais bien loin de ce qui se passe sur la glace, souligne le directeur du laboratoire et professeur de HEC Montréal, Pierre-Marjorie Léger, en entrevue. Les jeunes passionnés de hockey qui en parlent dans la cour d'école au secondaire, ils vont retourner en classe en se demandant « Pourquoi ils apprennent ça ?» illustre le professeur. Finalement, ils font des statistiques tous les jours en parlant de hockey. Avec le hockey comme toile de fond, le jeu soumet des problèmes de géométrie, de statistiques ou même de l'analyse plus poussée de données au niveau universitaire. Dans le fond, le tir au but, c'est un triangle, évoque M. Léger. Ça permet vraiment de contextualiser l'apprentissage. La grande variété de données produites par notre sport national donne un environnement parfait pour enseigner la pensée critique, abonde le directeur principal des applications pour entraîneurs de la LNH, Brent Berglund, dans une déclaration écrite. M. Léger, qui est lui-même un amateur de hockey, a trouvé de nombreux faits intéressants dans la mer de données de la LNH. De le voir d'un point de vue mathématique, c'est assez intéressant. Il parle des buts comptés à partir d'un petit angle, qui sont les plus spectaculaires, selon lui. L'année passée, le joueur qui avait le plus de chances de compter un but à partir d'un petit angle, c'était Leon Draisaitl, l'attaquant étoile des Oilers d'Edmonton, donne en exemple le professeur. Apprendre par le jeu. L'apprentissage actif par le jeu est une méthode efficace, explique M. Léger, qui s'intéresse à l'utilisation de la technologie dans l'apprentissage, notamment pour les étudiants en gestion, depuis 25 ans. Le côté ludique donne envie aux jeunes de garder les yeux sur la rondelle. Le jeu, ça crée toujours un niveau d'adrénaline et de passion qui fait en sorte que les gens développent des compétences tout en étant très engagés dans la pédagogie, souligne le professeur. Cette approche est utile à un moment où la réussite scolaire des garçons est une source de préoccupation. Ça marche pour tous les apprenants, mais ça marche bien chez les gars, indique-t-il. Le hockey n'est pas qu'une affaire de gars, comme le démontre l'engouement suscité par la victoire de Montréal. M. Léger espère tout de même que cet outil contribuera à ramener des garçons vers les mathématiques. L'apprentissage actif est aussi une manière de combattre l'intelligence artificielle, IA, à un moment où de nombreux étudiants confient leurs devoirs à ChatGPT, ajoute le professeur. Dans le domaine de l'éducation, c'est un grand problème, déplore-t-il. On veut que les étudiants pensent par eux-mêmes et c'est ce qu'on a fait avec le jeu. C'était « Des millions de données de la LNH pour intéresser les jeunes aux maths ». Un texte de Stéphane Roland de la presse canadienne paru le 15 avril 2026 dans Le Devoir.